Eu sei este informativo da Rádio França.
Paris Live with me, today's headlines.
Axel Dumont. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI. Ce soir, c'est avec Denis Strelkov de la rédaction russe.
Dobrый день.
À propos de la difficulté pour les journalistes russes d'exercer leur métier dans leur pays. Ali Reza Manavzadeh.
Durud Bashirman.
De la rédaction persane pour faire un tour d'horizon politique en Iran alors que dans moins d'un mois aura lieu l'élection présidentielle. Et pour la rédaction au brésilien, c'est Lucia Mouzel.
Bonne nuit.
Pour la nouvelle exposition du photographe brésilien Sebastião Salgado, qui s'appelle Amazonia, elle vient de s'ouvrir à Paris cette semaine. Mais avant cela, intéressons-nous à ce qui se passe au Proche-Orient entre Israéliens et Palestiniens. Aujourd'hui, les armes se sont tues à Gaza et en Israël. Cela grâce à l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu qui a mis fin à 11 jours d'un conflit sanglant, le quatrième depuis 2008. Mais preuve d'une situation toujours très volatile. De nouveaux affrontements ont éclaté tout à l'heure entre fidèles palestiniens et policiers israéliens sur l'esplanade des mosquées, troisième lieu saint de l'islam à Jérusalem-Est, un secteur palestinien occupé par Israël. Alors, il y a eu une vingtaine de blessés parmi les Palestiniens. Des accrochages similaires, il y a environ deux semaines, avaient été l'élément déclencheur justement de la flambée de violence qui a fait 243 morts palestiniens, dont 66 enfants et 12 morts en Israël, y compris un enfant. Ali Reza Manavzadeh, de la rédaction persane, la puissance de frappe du Hamas et du djihad islamique depuis le 10 mai a montré que ces deux organisations palestiniennes soutenues par l'Iran disposent d'un arsenal militaire conséquent.
C'est vrai que la violence et la quantité de leurs frappes ont montré que leur arsenal ne provient pas seulement du transfert clandestin des armes dans la bande de Gaza. Une grande partie résulte de la production sur place. C'est grâce au transfert, non pas des armes, mais du savoir-faire des gardiens de la révolution qu'ils ont réussi à se procurer une telle force de frappe. On dit que seulement un quart de leurs roquettes et missiles vient directement d'Iran, grâce bien entendu à des réseaux clandestins. Trois quarts sont fabriqués et assemblés à Gaza. Ils bénéficient aussi du transfert d'expertise du Hezbollah libanais.
Alors on a les services de renseignement israéliens qui affirment que l'Iran aide donc le Hamas et le djihad islamique. Pourtant, ces derniers jours, il n'a pas été question de l'influence des Iraniens.
Les Iraniens essayent de rester calmes et il y a une raison à cela. Ils sont en pleine négociation avec les Américains pour un retour à l'accord nucléaire de Vienne. Ils n'ont pas droit à l'erreur et doivent faire preuve de retenue. D'autant plus que les Israéliens sont hostiles à tout accord entre les États-Unis et l'Iran et depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche n'ont cessé de s'opposer à sa politique d'apaisement. Mardi dernier, le chef du bureau politique du Hamas a envoyé une lettre à Ali Khamenei lui demandant de prendre rapidement des mesures au niveau des pays musulmans et arabes, ainsi que d'autres pays du monde, afin de porter secours au Hamas.
Alors, la plupart des pays arabes estiment qu'il est suffisamment payant d'aider un mouvement islamiste et de soutenir une cause qui pourrait donc bénéficier à l'Iran.
Tout à fait, mais il faut avoir à l'esprit cette évidence que la République islamique, comme d'ailleurs la droite extrême en Israël, ne souhaite pas que le problème palestinien trouve une solution négociée. La rédaction persane a interrogé cette semaine Mansour Farhang, un éminent connaisseur du conflit israélo-palestinien. Il regrette que ce conflit ait pris des deux côtés une tournure religieuse. Écoutons ce qu'il dit.
Quelle est son analyse?
Il dit, depuis les 30 dernières années, l'élément religieux a complètement changé la nature de ce conflit. Aujourd'hui, aussi bien en Israël que chez les Palestiniens, l'orthodoxie religieuse empêche que ce conflit trouve une solution diplomatique. Quant à la volonté des dirigeants israéliens de faire des concessions, il poursuit.
آمادگی این کار رو ندارن در هر دو طرف.
ایدی امونوی لیتا اکتویل دیزرائیل و لحماس نه سون پا پره ا تروه این سلوشن دیپلوماتیک ا سو کنفلی ایل فو کیل یه دی دو کوتی دیز ایتا کی سوا پره ا ساسوار اوتور دون تابل ا پور سلا il faut qu'ils croient en la diplomatie et respectent leurs droits réciproques.
Le Hamas, qui est considéré comme une organisation terroriste par Israël, ce qui n'est pas le cas de la Russie, hein, Denis Strekloff. Le groupe n'est pas une organisation terroriste pour Moscou. Hein.
Effectivement, Philippe, Moscou n'a pas condamné les tirs des roquettes palestiniennes, contrairement à la France et d'autres pays de l'Union européenne. Ce n'est pas étonnant, le Kremlin a souligné plusieurs fois que le Hamas, je cite, fait partie de la société palestinienne. Je vous rappelle que c'est l'Union soviétique qui a largement soutenu les mouvements pour la libération de la Palestine dans le XXe siècle. Voici l'héritage soviétique. En plus, à cette époque-là, les relations entre l'Israël et l'URSS ont été très dégradées et Moscou n'a pas hésité d'envoyer ses soldats et ses armes en Égypte et en Syrie, par exemple. Donc, le Kremlin a des relations historiques plutôt bonnes ou au moins neutres avec le Hamas et la Palestine. Même si ces méthodes, les tirs, les attaques kamikazes, etc., n'ont jamais été soutenues par Moscou pour les autorités russes actuelles, pas question de les considérer comme terroristes. On écoute Sergei Lavrov, le ministère des Affaires étrangères russe.
Безусловно, нам очень важны ваши оценки о ситуации на Ближнем Востоке, на севере Африки и прежде всего, конечно же,
Que dit le chef de la diplomatie russe?
Il raconte que la Russie a des idées pour promouvoir la paix au Moyen-Orient, que le Kremlin est également prêt à aider la Palestine à surmonter la crise sanitaire liée au Covid-19 et M. Lavrov l'a dit au ministre des étrangères palestinien qui était en visite à Moscou juste quelques jours avant les échanges des tirs. On est d'accord, difficile d'imaginer une telle rencontre à Washington par exemple, et encore une preuve que la Russie et ses citoyens sont bien présents en Palestine. Vladimir Poutine, l'homme fort de Kremlin, a annoncé l'évacuation de ses compatriotes depuis la bande de Gaza à cause de l'opération militaire israélienne.
Denis Strekloff, vous nous dites que dans ce conflit israélo-palestinien, la Russie a décidé de prendre parti.
C'est un peu plus subtil que ça. Ce qui compte pour Vladimir Poutine, c'est aussi une bonne entente avec l'Israël. La Russie, avec sa politique étrangère très critiquée en Europe et un peu partout dans le monde, la Russie ne peut pas se permettre de perdre des amis et de s'isoler davantage. Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, a rencontré le président russe à Moscou en janvier dernier. Ils sont parlé par téléphone à l'occasion de la célébration du 8 mai il y a quelques temps. Mais en même temps, pour le Kremlin, des bonnes relations avec la Palestine sont aussi très importantes. Certains disent même que Moscou a fourni des armes au Hamas, au moins que les armes produites en Russie sont utilisées par les Palestiniens. Voici les mots du président russe.
Я попросил бы коллег высказаться по поводу того, как складывается ситуация сейчас на
C'est donc Vladimir Poutine qui parle.
Absolument, l'aggravation des hostilités dans la bande de Gaza se passe à côté des frontières russes, cela touche directement à notre sécurité nationale. Comme vous le voyez, monsieur Poutine est loin de soutenir la Palestine. C'est la paix qu'on veut, tout le monde doit cesser les hostilités, c'est ça le message du président. Ce qui comptait vraiment pour la Russie, c'est quel pays jouerait le rôle clé dans le cessez-le-feu. En 2002, Moscou a participé au quarté pour le Moyen-Orient pour apaiser les tensions dans le conflit et pour la Russie, c'était aussi le moyen de marquer sa présence dans la région, voire d'augmenter son influence.
Et cette fois-ci, Moscou aurait voulu faire la même chose.
Oui, surtout que le Kremlin a joué le rôle d'un médiateur entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, par exemple, il y a quelques mois. Mais à la fin, Moscou n'a pas été très présent dans ce processus de paix. Maintenant, quand le but est atteint, il n'y a plus de requête dans le ciel, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a souligné le rôle de l'Égypte dans ce processus de paix, l'un des partenaires russes dans la région. Mais elle a évité de citer les États-Unis, dont le président Joe Biden a appelé Benjamin Netanyahu plusieurs fois ces derniers jours.
Lucien Mouzel, comme partout dans le monde, le conflit à Gaza a attiré l'attention de vos auditeurs brésiliens.
Oui, les Brésiliens s'intéressent beaucoup au conflit israélo-palestinien. D'abord, car il y a une diaspora importante de, à la fois juifs et arabes au Brésil, mais aussi car le sujet illustre la polarisation politique que l'on expérimente depuis quelques années au Brésil. Donc rapidement, la gauche brésilienne s'est emparée de ce sujet sur les réseaux sociaux. On entend beaucoup parler de cela cette semaine, avec notamment des messages de soutien au peuple palestinien et contre la réponse militaire israélienne. Et de l'autre côté, le président Jair Bolsonaro, d'extrême droite et proche du gouvernement de Benjamin Netanyahu, il a condamné les violences violence en se mettant du côté d'Israël, un positionnement qui est assez rare quand même pour la diplomatie brésilienne.
Ouais, dites-nous en plus sur le positionnement du président brésilien.
Bah voilà, il a dit que le lancement des roquettes contre les territoires israéliens par des militants de Gaza était injustifiable. Il a mis en évidence le fait que les violences ont fait des morts dans les deux côtés, ignorant complètement la disparité des chiffres, avec plus de 230 morts côté palestinien contre une douzaine auprès des Israéliens. Et enfin, Bolsonaro a demandé la fin immédiate de toutes les attaques contre Israël, mais pas le contraire. Donc, cependant, il faut noter que le ministre des Affaires étrangères brésilien n'a pas réagi du tout. C'est important car nous venons d'avoir un changement à la tête de la diplomatie brésilienne. L'ancien ministre Ernesto Araújo était perçu comme un des membres les plus radicaux du gouvernement brésilien.
Et vous êtes également intéressé, la rédaction brésilienne de RFI, au positionnement de la diplomatie américaine dans ce conflit.
Ah oui, tout à fait. Pour le gouvernement de Joe Biden, cette crise était une chance de montrer comment entend-il se positionner par rapport à ses alliés au Moyen-Orient. Et manifestement, le soutien inconditionnel des Américains à Israël n'a pas changé, ce qui n'est pas surprenant en soi, mais peut-être que pour la première fois, la pression d'une certaine partie des démocrates n'a jamais été aussi forte pour que le président américain exprime sa condamnation des attaques israéliennes vers Gaza. Dans notre rédaction, nous avons interviewé la chercheuse en relations internationales Arlene Chemerchat de l'Université de São Paulo. Elle nous a livré son analyse.
Na essência, o apoio continua o mesmo. E a gente está vendo isso claramente agora. Essa declaração do governo americano de que Israel...
Quelle est la teneur de ce commentaire?
Elle nous explique que depuis toujours, les États-Unis se contentent de dire qu'Israël a le droit de se défendre, mais doit réduire la violence de sa réponse. Et ce, indépendamment de ce que dit l'ONU sur ce conflit. Les Nations Unies défendent depuis 1948 la création d'un État palestinien, mais cette solution n'a toujours pas été appliquée. Car la résolution n'est pas accompagnée d'actes concrets sur le terrain, sur les silences notamment des États-Unis. Je vous rappelle que le gouvernement américain n'a pas approuvé une déclaration du Conseil de sécurité de l'ONU cette semaine en faveur du cessez-le-feu.
Voilà ce qu'on peut dire donc sur ce cessez-le-feu qui est entré en vigueur il y a de cela quelques heures, qui tient pour l'instant encore qu'il y a eu donc des incidents à Jérusalem-Est tout à l'heure. En tout cas, on suit cela bien évidemment sur les antennes de Radio France Internationale.
20 часов в Париже,
20 градусов.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
En Russie, la répression contre les journalistes continue. Les autorités utilisent une nouvelle arme, on va dire, le statut d'agent de l'étranger. Il y a un mois, c'est le site indépendant Medusa qui a ainsi été répertorié comme tel par le ministère de la Justice. Alors, quelles sont les conséquences d'une telle décision, d'une telle classification, Denis Reklov?
On peut dire que pour un média indépendant très suivi, cela signifie un arrêt de mort, ou presque. Pour Medusa, la publicité, c'est une source unique de financement, et malheureusement, les marques importantes ne veulent pas apparaître dans les médias nommés comme agent de l'étranger. Le statut de l'agent de l'étranger était introduit en Russie il y a presque 10 ans. Les parlementaires voulaient faire en sorte que les citoyens savaient que telle ou telle organisation recevait de l'argent depuis l'étranger et agit dans l'intérêt de l'autre État, et de leur imposer des contraintes administratives supplémentaires.
Et la plupart de ceux qui font partie de cette liste n'ont pas, ou presque pas, de financement donc venant de l'étranger.
Les défenseurs des droits de l'homme en Russie réclament que cette liste est utilisée à des fins politiques contre les organisations qui ne plaisent pas au Kremlin. Par exemple, contre ceux qui réclament davantage de responsabilité pour les auteurs des violences conjugales, ou contre l'organisation d'Alexei Navalny, contre les médias financés entièrement par d'autres États, ou bien contre ceux qui défendent les droits des prisonniers. La liste est très longue, mais jusqu'ici, ce statut n'a pas été utilisé contre les médias indépendants. Il y avait des procès contre les journalistes, des perquisitions, des arrestations souvent jugées arbitraires, mais le statut de l'agent de l'étranger pour des journalistes, c'est une nouveauté.
Denis, pourquoi est-ce que le site Medusa est ainsi visé? Est-ce que ces journalistes soutiennent les opposants de Vladimir Poutine?
Tout d'abord, il est en raison officielle donnée par les autorités russes. Pour eux, Medusa reçoit de l'argent depuis l'étranger, mais c'est la seule information qu'on a. Quelle somme, depuis quel pays, pourquoi, ce sont des questions à laquelle les autorités russes n'ont pas répondu. On ne peut pas même dire que le site Medusa soutient l'opposition russe, même si ces journalistes ont suivi de près la situation avec l'opposant Alexei Navalny, qui est empoisonné en Russie et qui se trouve actuellement en prison. Mais Medusa a toujours été très critique vis-à-vis du Kremlin, c'est sûr. Et les enquêtes publiés sur le site n'ont pas toujours plu à ceux qui sont au pouvoir. Par exemple, l'un des articles les plus cités concerne le fameux palais de Poutine. Les journalistes ont réussi d'apprendre beaucoup de choses sur cette résidence du président, très luxueux et très cher, dans le sud de la Russie.
Et du coup, les journalistes du site, enfin certains, ont dû s'exiler pour éviter d'être persécutés.
Pour rester indépendant et ne pas faire l'objet de la pression ou des perquisitions, la rédaction a fait le choix de se baser à Riga, la capitale de la Lettonie. Mais c'est pour cela que les autorités russes ont décidé de combattre Medusa dans le champ juridique. Par contre, les sources anonymes de Medusa, proches du Kremlin, réclament que le site n'a pas été visé à cause d'une publication particulière. Pour eux, c'est le début d'une vaste campagne contre les médias russophones placés à l'étranger. Et d'autres médias auront ce statut très bientôt.
Alors justement, Medusa et les autres également, quelles sont les contraintes qui sont imposées à ces médias classés agents de l'étranger?
La chose la plus visible aux internautes, c'est un long message que le média doit afficher avant chaque article. Ce texte indique que le contenu a été créé par un site qui agit en tant que l'agent de l'étranger et même dans les podcasts ou dans les vidéos, ce message reste obligatoire. Voici quelle forme il prend dans le format audio.
Данное сообщение, материал, создано и или распространено иностранным средством массовой информации.
Denis, que dit cet avertissement?
Cet avertissement nous prévient que ce message a été créé par un média financé par l'étranger. On est d'accord que si on entend ce message avant chaque émission, ça ne donne pas trop envie de continuer de l'écouter. Et dans les réseaux sociaux, où ce message est également obligatoire, se peine d'une peine de lourde amende, ce texte pollue la page de Medusa. Mais ce qui est le plus important, c'est que les gens qui travaillent pour Medusa ou d'autres agents de l'étranger peuvent aussi être considérés comme tels. Cela veut dire qu'ils devront informer la justice de toutes leurs sources de revenus ou de toutes leurs dépenses, sous peine de prison. Donc être journaliste pour Medusa, cela devient difficile et même dangereux.
Et pour le média, comment est-ce qu'il peut vivre ?
La réponse est qu'on ne sait pas. Medusa a lancé une collecte de fonds sur l'internet, les appels à sauver le site se multiplient, mais la pression administrative est importante et pour chaque infraction commise par les journalistes, il y a des amendes lourdes qui sont prévues.
Donc là, on parle de la Russie. Juste à côté de la Russie, il y a Minsk, le régime de Loukachenko, qui augmente lui aussi sa pression sur la presse indépendante en Biélorussie, puisqu'on parle de ce pays. C'est le site tut.by qui est visé.
Oui, exactement. Tut.by est bloqué depuis 3 jours. On ne peut pas accéder même depuis l'étranger. Et plus d'une dizaine de ces journalistes sont en garde à vue. Pour le ministre de l'Information, la cause, c'est la publication d'informations interdites. D'autres perquisitions sont liées à la fraude fiscale présumée également. Tut.by, c'est le média indépendant biélorusse connu pour sa couverture des manifestations. Dans les réseaux sociaux, ses pages comptent des centaines de milliers d'abonnés. Après que la plupart des journalistes russes ou étrangers ont dû quitter le pays sous pression des autorités, c'était la principale source de l'information non officielle.
Alors est-ce qu'il reste encore des médias indépendants en Biélorussie ?
Il y en a de moins en moins dans les régions. Les journaux qui ne sont pas contrôlés par l'État continuent d'exister, mais ces médias sont eux aussi de plus en plus souvent condamnés aux amendes pour la diffusion de l'information interdite. Dans les journalistes, les autorités ont décidé de brûler les champs des médias. Même temps, des tensions politiques dans le pays sont de moins en moins visibles. Tous les politiques de l'opposition sont maintenant soit à l'étranger, soit en prison. Il n'y a pas de grandes manifestations également. Et même si les opposants ont transmis des preuves de crimes commis par le régime de Loukachenko à la Cour internationale de la justice, il est maintenant peu probable que Loukachenko change sa politique.
Donc la liberté de la presse a encore beaucoup de mal à s'imposer dans ces pays de l'ex-Union soviétique, on va dire. C'était Denis Streklov de la rédaction russe de Radio France Internationale. L'élection présidentielle en Iran aura lieu maintenant dans moins d'un mois. Alireza Manabzadeh de la rédaction Persane, avant de jeter un coup d'œil sur le portrait des 4 principaux candidats, dites-nous en plus sur ce scrutin.
En fait, c'est la 13e élection présidentielle depuis l'avènement de la République islamique en 1979. Le président est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 4 ans, renouvelable une fois. Une commission de surveillance des élections, dirigée par le Conseil des gardiens de la Constitution, sélectionne les candidatures. Celles des femmes sont toujours rejetées, alors que d'après ce même conseil, tout citoyen iranien âgé de 40 à 75 ans et croyant en la religion officielle du pays peut se porter candidat. On dit que tout est orchestré par la maison du guide, mais il rejette cette accusation. Écoutons ce qu'il dit.
Quel est son nom et que dit-il ?
Il dit « Je n'interfère absolument pas dans la sélection des candidats ni dans l'élection du président. Dans le passé, on m'a demandé mon avis sur tel ou tel candidat. J'ai répondu « Je ne suis ni pour ni contre ».
Donc là, c'est qui parle ? Quand vous dites ça, c'est pas vous, hein ? Le nom de celui qui orchestre la maison du guide ?
C'est Ali Khamenei.
Voilà, ben non, vous ne l'avez pas dit, donc c'est bien de le préciser.
Ah bon, d'accord.
Autre question, combien d'Iraniens pourront voter dans quelques semaines maintenant ?
Selon les QG de campagne, il y a presque 60 millions d'électeurs, dont à peu près 1,5 million sont des électeurs pour la première fois. Le ministère de l'Intérieur a enregistré près de 600 candidatures, parmi lesquelles figure l'ex-président Mahmoud Ahmadinejad. Sa candidature sera probablement rejetée à cause de ses critiques du système électoral.
Alors, et 40 femmes se sont portées candidates.
Oui, 40 femmes se sont portées candidates, mais rien ne garantit que certaines d'entre elles soient sélectionnées.
En tout cas, on va parler des quatre principaux candidats, Ali Reza. Dites-nous qui ils sont et quel a été leur parcours.
Alors, commençons. Les médias estiment que la bataille se jouera entre le conservateur Ebrahim Raisi, le conservateur modéré Ali Larijani et le réformateur Esaq Jahangiri. Commençons par Ebrahim Raisi. Il est le chef du système judiciaire du pays. Il a été l'un des candidats malheureux en 2017. Il a été l'un des responsables des exécutions massives des prisonniers politiques en 1988. Depuis 2016, il est à la tête de la plus riche fondation religieuse du monde musulman qui gère le mausolée de l'imam Reza à Mashhad. Il a 60 ans, il est soutenu par les conservateurs. On le considère comme le successeur le plus probable du guide suprême, puisqu'il est l'un des hommes les plus proches du guide. Le département du Trésor des États-Unis l'a soumis à des sanctions.
Autre favori, l'ancien président de l'Assemblée, qui est lui aussi l'un des plus proches d'Ali Khamenei.
Exactement, il s'agit d'Ali Larijani, l'un des deux représentants du guide au Conseil suprême de sécurité nationale. De ce fait, il est le négociateur principal sur tous les sujets touchant à la sécurité nationale, comme par exemple le programme nucléaire iranien. À la tête de l'Assemblée depuis 2008, il a dû céder récemment sa place à Ghalibaf, ancien maire de Téhéran, un autre renfort du régime. Contrairement à Raisi, soutenu par une fraction du régime, Ali Larijani se définit comme indépendant, c'est-à-dire qu'il n'est théoriquement soutenu ni par les conservateurs ni par les réformistes. Pourtant, il est proche du guide. Le troisième favori est le réformateur Jahangiri, premier vice-président de la République depuis 2013. En 2017, il a réalisé de très bonnes prestations lors des débats télévisés entre les candidats.
Et il nous faut parler également des candidats qui sont issus des gardiens de la Révolution.
Tout à fait. Parlons d'abord de Hossein Dehghan, ancien officier de carrière du corps des gardiens de la Révolution. Il a été pendant 5 ans ministre de la Défense et de la Logistique des forces armées dans l'administration du président actuel. La nouveauté est que pour la première fois, un haut gradé en exercice du corps des gardiens de la Révolution est candidat. Pour cela, il a dû démissionner de son poste. Il s'agit de Saïd Mohamad, ancien directeur de la toute puissante fondation de Khatam al-Anbiya et conseiller auprès du guide suprême.
Voilà donc une présidentielle qui se jouera essentiellement entre les hommes du sérail. C'était Ali Reza Manavzadeh de la rédaction Persane de RFI. La rédaction brésilienne nous amène pour un voyage au cœur de l'Amazonie, cela par le biais de la nouvelle exposition du célèbre photographe Sebastião Salgado. Profitant du déconfinement du monde de la culture, cette expo a ouvert ses portes cette semaine à Paris. Vous y êtes allé, Lucia Mouzel, racontez-nous.
Oh, quelle chance, Philippe. C'est tout simplement toute la splendeur de la plus grande forêt tropicale du monde, sous le regard d'un des meilleurs photojournalistes de notre temps. Ces 200 clichés, tous en noir et blanc, il les a pris au cours de 7 ans d'expédition à l'Amazonie. C'était pas moins que 32 voyages qu'il a fait. À chaque fois, un coin différent de ces territoires, vaste comme 8 fois la forêt. France, des jours et des jours de navigation pour arriver à une tribu isolée d'Indiens à laquelle il est toujours accueilli avec la fête, beaucoup de curiosité aussi. L'Amazonie par Sebastião Salgado, c'est la rencontre avec l'essentiel de nous-mêmes, avec notre préhistoire, comme il a répété à maintes reprises lors de sa conférence de presse. Ce fut vraiment un privilège de pouvoir entendre son récit sur ces Indiens qui savent parfaitement, par exemple, se déplacer au cœur de cette forêt qui leur appartient, grâce à ses lumières, ses ombres, ses bruits, les courants des rivières immenses qui traverse ces terres tant convoitées par l'homme blanc ces derniers temps, Philippe.
Cette exposition Amazonia se passe à la Philharmonie de Paris avec forcément de la musique. Quelle est la bande sonore de ce voyage qu'on entend sous nos voix?
Nous l'entendons, voilà, au fond, ce sont les bruits de la forêt, captés depuis les années 50 et gardés précieusement au musée ethnographique de Genève, partenaire de cette exposition. Ces archives précieuses ont été assemblées avec du Villa-Lobos, le compositeur célèbre brésilien, par le musicien français Jean-Michel Jarre, qui signe également cette exposition avec son œuvre musicale. Ce mélange entre les images et les sons, la musique, il est réussi pour créer cette ambiance de pleine nature, car il faut le dire, Salgado a choisi de montrer l'Amazonie dans ce qu'elle a de plus beau, ses rivières, ses animaux, ses arbres gigantesques qu'on a du mal à imaginer en vrai, et aussi ses montagnes qui sont moins connues. L'objectif, c'était de sensibiliser à sa protection, non pas par sa destruction, mais en la valorisant. Ce message final, c'est: va-t-on vraiment laisser détruire tous ces patrimoines naturels qui est unique au monde? D'ailleurs, nous pouvons aussi entendre la voix d'une dizaine de tribus d'Indiens de l'Amazonie dans leur langue. Je vous propose un extrait. Leurs langues sont toutes différentes, mais leurs messages vont tous dans le même sens. Aidez-nous à ne pas disparaître, que ce soit à cause de la déforestation ou bien des changements climatiques. Les Indiens d'Amazonie sont menacés.
Alors Sebastião Salgado ne mâche pas ses mots pour critiquer la politique environnementale du président brésilien, Jair Bolsonaro, mais il a aussi pointé du doigt les consommateurs, les acheteurs de produits agricoles, de produits issus de la déforestation.
Oui, les photographes brésilien est exaspéré par les actions du gouvernement brésilien qui est en train d'affaiblir la législation environnementale au Brésil. Il a démantelé les organismes de contrôle des délits environnementaux et a même stimulé des activités illégales comme l'extraction de l'or dans des zones protégées. En quelque sorte, Bolsonaro, il est l'ennemi idéal pas seulement des Brésiliens, mais aussi de la communauté internationale en ce qui concerne la destruction de l'Amazonie. Sauf que tout cet appétit pour les produits agricoles brésiliens, il n'aurait pas lieu s'il n'y avait pas un marché immense derrière. Salgado a vivement critiqué, par exemple, l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur, qui, selon lui, va augmenter encore plus la déforestation. Écoutons-le.
Cada vez que eu volto à Amazônia, eu tenho a constatação realmente de que a destruição é permanente na Amazônia. Foram nos últimos 40 anos que nós perdemos praticamente tudo.
Que vous a dit Salgado?
Il dit qu'à chaque fois qu'il retourne là-bas, il voit l'Amazonie plus dévastée, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait 40 ans que les producteurs agricoles avancent sur ces terres. Il demande donc aux Européens d'être plus honnêtes dans ce dossier. On ne peut pas se contenter d'accuser le gouvernement Bolsonaro tant que derrière, on continue d'acheter de plus en plus de produits bon marché brésiliens issus de la déforestation.
Alors cette expo à Paris, alors qu'au Brésil, le ministre de l'Environnement l'environnement est visé par une enquête de police.
C'est incroyable. Le ministre Ricardo Salles est visé par une enquête de la police fédérale soupçonnée d'avoir facilité l'exportation illégale de bois de l'Amazonie vers les États-Unis et, figurez-vous, vers l'Europe aussi. Son bureau a été perquisitionné. Le chef de l'IBAMA, c'est le principal organisme de protection de l'environnement, a été écarté par complicité. Et c'est l'Agence américaine de l'environnement qui est à l'origine de la découverte de ces trafics.
Merci à vous, Lucien Mouzel, de la rédaction brésilienne de RFI, avec donc cette exposition Salgado à voir à Paris. C'était Accent du Monde sur Radio France Internationale.
La Marche du Monde, Valérie Nivelon.
Pendant 3 ans, nous sommes partis recueillir les témoignages des survivants du goulag soviétique, des destins individuels, comme autant de récits de résistance à la répression, au froid et à la faim, des récits de vie extraordinaires où les voix du goulag nous disent leur plus grande peine, mais aussi leur plus grande joie.
La Marche du Monde, les voix du goulag, épisode 1, face aux archives, ce dimanche à 10h10 TU sur RFI.